On entame à l'instant la dernière portion de l'émission L'heure juste d'aujourd'hui et sujet qui va en intéresser plusieurs des parents, mais aussi des jeunes qui sont à sortir du secondaire ou qui le feront dans quelques années ou qui sont déjà maintenant là, sur les bancs du collège. Et c'est une étude qui a paru, qui a été réalisée par l'Institut de recherche en économie contemporaine, étude qui s'intitule « L'offre de formation à distance au collégial, état des lieux et enjeux socio-économiques » a été réalisé par le chercheur Éric N. Duhem, chercheur pour l'IREC, qu'on a au bout du fil. Monsieur Duhem, bonjour.
Bonjour, monsieur Parent.
Ça résonne beaucoup chez nous, ça, cette nouvelle-là. Expliquez-nous d'entrée de jeu, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous pencher sur le sujet de la formation à distance au collégial?
C'est un projet qui a été réalisé en collaboration avec la Fédération étudiante collégiale du Québec. Donc, on s'était entendu sur cette question-là qu'on voulait éclairer pour deux raisons. D'une part, parce qu'il y a toute une nouvelle impulsion qui a été donnée à la formation à distance avec tout le plan d'action numérique en éducation puis en enseignement à distance qui a été mis en place par le gouvernement en 2018. Donc, ça, c'était une des raisons. Puis l'autre raison, c'est, étant donné la pandémie, bien, ça s'est venu un peu chambouler, là, tous les plans, tous les projets qui étaient faits par rapport à la formation à distance, ça a un peu précipité les choses. Puis tout le monde a pu avoir un aperçu de ce que ça pouvait être l'enseignement, bien, dans ce cas-ci, en non-présentiel, qu'on dit, là. Donc, ça nous semblait important à ce moment-ci, là, en 2022, là, de faire un peu le bilan avant que de nouvelles mesures soient mises en place là, dans les prochaines années.
Oui, parce que c'est la direction. On sent qu'on prend une direction vers le numérique, vers l'étude à distance. Mais là, ce qu'on dit, c'est ce que démontre l'étude. Et le titre, d'ailleurs, du communiqué de presse qu'on a reçu, c'est « Le Québec avance à tâtons ». On dit qu'on manque de cohérence dans la stratégie gouvernementale qui est mise en place. Pourriez-vous expliquer davantage?
Oui, bien sûr. Donc, c'est qu'il y a, je pense, de la part du gouvernement, une volonté assez ferme d'accentuer l'offre de formation à distance. Donc, on dégage des enveloppes dans le cadre du plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur dont je parlais. C'est un plan qui a une enveloppe de 1,2 milliard de dollars. Là, c'est pas juste pour la formation à distance, mais là, il y a des mesures pour la formation à distance de l'ordre de 60 millions. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent qui est mis de l'avant pour favoriser la formation à distance. Mais en même temps, on laisse aux établissements toutes les initiatives qui sont prises au niveau de la formation à distance. Donc là, on dirait que le ministère n'ose pas jouer un rôle de leadership qui serait quand même important parce qu'il faut structurer cette offre-là. Sinon, on va se retrouver dans une situation où les établissements collégiaux vont se faire la compétition là, pour des mêmes clientèles parce que la formation à distance, ça transcende, ça dépasse les frontières régionales.
Donc, des dédoublements, finalement, que l'offre ne soit pas étayée de façon cohérente, intelligente ou logique, tu sais, c'est justement. C'est un des risques, là, puis c'est parce qu'on dit qu'il y a plusieurs risques quant au brouillard, c'est que finalement, c'est pas clair. C'est qu'on, ben, ça revient au titre. On avance à tâtons, on fait à peu près ce qu'on pense sans qu'il y ait de leader. Vous disiez, il faudrait qu'au niveau du ministère, on prenne le lead en bon français, le bâton du pèlerin. Pas facile, ça, là.
Non, effectivement. Puis ce qu'on a pu réaliser aussi dans le cadre de l'étude, c'est qu'on a fait beaucoup de demandes d'accès à l'information auprès du ministère de l'Enseignement supérieur, auprès des établissements, pour constater que s'il y a une volonté d'aller de l'avant en ce qui concerne la formation à distance, c'est par contre très mal documenté. Donc, on n'arrive pas à avoir une liste exhaustive, par exemple, des programmes qui sont offerts actuellement par tous les établissements au Québec. On n'arrive pas non plus à savoir combien il y a d'inscriptions en cours exactement, ou plutôt ce qu'on m'a envoyé là, de la part du ministère, là, c'était très irrégulier comme données. Là, il semblait avoir des grosses erreurs dans les données. Donc, quand on met en place une stratégie numérique en enseignement supérieur puis qu'on veut pousser pour la formation à distance, bien, la première chose qu'on devrait faire, là, c'est vraiment bien s'informer sur c'est quoi l'état des choses actuelles, qui veut aller de l'avant, puis ensuite structurer l'offre de formation à distance, c'est-à-dire développer un système là, pour savoir qui peut donner des cours pour pas qu'on se retrouve avec 20 établissements, mettons, qui offriraient le même type de programme, donc qui seraient concurrence les uns aux autres. On pourrait privilégier un système où on donne la priorité à certains établissements pour certains programmes, puis à d'autres établissements pour d'autres programmes, pour comme ça répartir à la grandeur du Québec l'offre de formation à distance.
Vous êtes loin de remettre en question l'offre à distance. C'est plus, c'est de mieux la ficeler parce que, et dans une région comme chez nous, on n'a pas. En fait, c'est un avantage indéniable parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui doivent quitter le milieu. Après ça, ben c'est, on vit plus chez papa maman, on doit se payer un logement, la voiture. Il y a plein de, et les frais scolaires également. Donc il y a plein de frais inhérents à tout ça qu'on n'aurait pas à subir si on demeurait à la maison, si on avait accès. Mais il y a quand même des limites. Là. Ça ne s'applique pas à tous les programmes, là, le virtuel ou la formation à distance.
Non, tout à fait. Vous faites bien de le souligner. C'est clair que la formation à distance, c'est bon pour certaines personnes et pas pour toutes les personnes. Donc, ça a été développé, ça a accompagné tout le développement du système d'enseignement supérieur, en fait. La formation à distance, c'est quelque chose de nouveau, là. Avant, on procédait par la poste, après ça, ça a été la radio, la télévision, puis là, aujourd'hui, ça passe davantage par Internet. Donc, Internet agrandit les possibilités, si on veut, pour la formation à distance. Mais il faut toujours se rappeler que la formation à distance, c'est pour rendre le plus accessible possible l'enseignement supérieur. Pour certaines personnes, compte tenu de contraintes spatiales ou temporelles, c'est une condition nécessaire pour pouvoir réaliser leur projet d'études. Donc, dans ce sens-là, c'est intéressant, la formation à distance. Mais en même temps, selon nous, et c'est l'avis de plusieurs acteurs du milieu, là, ça ne devrait pas non plus remplacer la formation en présentiel. Ça doit être complémentaire, ça doit suppléer, mais ça ne devrait pas entrer en concurrence avec la formation en présentiel.
Et ça, c'est parce qu'il y a plusieurs, vous faites pas juste faire, en fait, vous faites un constat, mais vous émettez également des recommandations. Là, on dit qu'il y a 9 recommandations qui sont proposées pour améliorer la stratégie, la cohérence de tout ça, là, pour que ça soit mieux ficelé.
Oui, c'est ça. Ben, en général, là, si on s'en tient à 4 grands éléments, là, il y a effectivement 9 recommandations, là, mais il y a 4 grands éléments là, qu'on met de l'avant. D'une part, il s'agit de rappeler justement que la finalité de la formation à distance, c'est l'accessibilité. Donc, ça ne doit pas se substituer à la formation en présentiel. Et que les technologies numériques, ben, c'est bien intéressant, mais ça aussi, ça doit rester des moyens pédagogiques et non pas devenir des fins en soi. Parce que c'est là qu'il y a une ambiguïté là, avec le plan d'action numérique en éducation puis en enseignement supérieur. Là, on tend à vouloir faire des technologies numériques une fin en soi puis de l'enseignement à distance une fin en soi, alors que ça doit demeurer des moyens. L'autre chose, c'est de mieux coordonner l'offre de formation au niveau national. Donc, il y a quelque chose qui est mis en place en ce moment, qui devrait arriver à maturité ou être actif l'année prochaine. C'est le campus numérique qui va permettre et aux établissements collégiaux et universitaires d'afficher les cours, les programmes qui sont disponibles à distance. Ben ça aurait pu servir d'organe pour structurer l'offre au niveau national, mais pour l'instant, on se contente, là, ça risque de devenir tout simplement une vitrine, donc une espèce de babillard où on va afficher tous les cours, tous les programmes. Faut structurer cette offre-là. Faut mieux la répartir pour empêcher qu'il y ait une sorte de compétition malsaine là, qui se fasse entre les établissements, qui serait contre-productive, puis surtout que les plus gros établissements des centres urbains aient cherché la part du lion. Là, pour l'instant, les cégeps de région s'en tirent bien. Faudrait que ça demeure comme ça. Et voilà, ça, c'est le deuxième aspect. Troisième aspect, c'est de s'assurer un standard minimum là, de conditions d'enseignement puis d'études au niveau national. Puis le dernier aspect, le quatrième aspect, c'est de beaucoup mieux documenter la question de la formation à distance là, au niveau de la liste des programmes puis des cours offerts, au niveau des inscriptions, des effectifs étudiants, au niveau aussi de ce qui advient de ces étudiants-là. Est-ce qu'on a le même taux de placement au niveau du marché du travail que dans la formation présentielle? Est-ce que ça favorise la poursuite aux études ou les gens ont plutôt directement tendance à aller vers le marché du travail? Ça aussi, ce serait intéressant de le documenter.
Effectivement. Et là, la suite des choses, comment s'assurer que les décideurs prennent connaissance de l'étude et y donnent suite? Est-ce qu'il y a des représentations de prévues?
Non, ben nous, à
l'IREC, c'est pas ça, hein?
Notre objectif, c'est de faire l'étude elle-même, de faire les recommandations. Ensuite, vu que ça a été fait en collaboration avec la Fédération étudiante collégiale du Québec, eux vont reprendre certains aspects et vont peut-être faire des demandes plus formelles là, de leur côté. Mais ça peut être aussi repris par d'autres organismes de la société civile là, qui peuvent embarquer dans cette idée-là que oui, il faut mieux structurer l'offre de formation à distance. Puis je sais que ça va créer des échos sans doute au niveau des enseignants, des enseignantes, au niveau collégial. C'est une question qui les préoccupe aussi énormément. Là. Moi-même, comme j'ai j'ai un autre chapeau de chargé de cours à l'UQAM. Puis, c'est des enjeux qui sont très, très préoccupants pour le corps enseignant.
Assurément, assurément. Écoutez, très intéressant vos propos, M. Éric N. Duhem. Vous êtes chercheur pour l'Institut de recherche en économie contemporaine et l'auteur de l'étude dont on parlait, qui est l'offre de formation à distance au collégial, état des lieux et enjeux socio-économiques. On va suivre assurément la suite des choses à ce niveau-là. Merci beaucoup.
Merci à vous, M. Parent.
C'est donc ce qui met fin à l'émission L'heure juste d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je trouvais, en tout cas, j'ai l'impression de me répéter à ce niveau-là, mais j'ai l'impression que j'essaye quand même de vous offrir des trucs intéressants. Puis je pense que, encore une fois, aujourd'hui, on a réussi à viser dans le 1000. Vous pourrez me le dire si on se croise à l'épicerie, si vous voulez faire une petite jasette, vous me direz des fois. Je suis toujours intéressant de vous entendre par rapport à avoir vos réactions par rapport à l'émission L'heure juste que je juge, mais qu'on juge à la radio très, très pertinente là, et nécessaire pour remettre des fois les pendules à l'heure ou pour explorer des sujets comme on le fait aujourd'hui qui peuvent toucher une panoplie de domaines, mais qui sont toujours très, très pertinents pour la MRC Vallée de la Gatineau, ses décideurs et ses acteurs. Donc, écoutez, je vous refais un petit compte-rendu de tout ça. Jasmin Guénette était avec nous plus tôt à l'émission, vice-président aux Affaires nationales, pour nous parler des défis auxquels sont confrontés les agriculteurs en termes de main-d'œuvre. On est revenu sur des travaux préparatoires à un immense chantier 2025. Ça va se faire là, du côté du barrage Mercier Hydro-Québec, qui va faire des rénovations, une réfection importante, mais on devait préparer le terrain, donc en prévision de tout ça. Sinon, que la fromagerie La Cabriole, qui est en vedette dans une promotion IGA, dans le cadre du temps des fêtes, un de leurs fromages, là, le Mont-Serfois à la Canneberge, qui va être mis dans un calendrier de l'Advent des fromages d'ici, donc ceux qui trippent moins chocolat, beaucoup fromage, ben, ça pourrait être quelque chose à mettre sous l'arbre de Noël ou en fait, c'est calendrier de l'Advent, donc peut-être le donner au début du mois de décembre, et vous l'entendiez il y a un instant, Éric N. Duhem, chercheur pour l'IREC concernant l'offre au niveau collégial à distance, qui est peut-être manque de cohérence là, selon ses propos là, à la suite de son étude. Donc, vous voulez réentendre, retrouver le des éléments qu'on a diffusés aujourd'hui à l'émission, c'est sur notre site internet www.caga.fm dans la section émissions sous l'onglet L'heure juste. Là-dessus, ben, passez du bon temps et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!